J'invite l'Assemblée à ouvrir la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Maintenant, nous avons le plaisir, je dirais parce que ça fait la troisième fois, nous avons le plaisir d'accueillir Charlie. Charlie qui vient en voisin et qui, paraît-il, se fait toujours une joie de venir prêcher à Damary parce que ça lui rappelle des souvenirs. Alors je laisse la parole à Charlie.
Merci Camille pour ces mots de bienvenue et d'accueil. Merci à vous pour ce temps d'adoration que nous pouvons vivre ensemble. Il est vrai que chaque fois que je me présente ici à Damary, c'est vraiment avec une émotion très forte parce que le lieu en lui-même me rappelle le souvenir de l'église de Toulouse et un petit peu Collonges également, du point de vue de l'architecture, mais aussi au travers des uns et des autres que j'ai appris à découvrir il y a plusieurs années. Merci à vous de m'accueillir et surtout nous voulons remercier ensemble le Seigneur pour ce temps d'adoration qu'il nous offre aujourd'hui. Ce matin, nous voulons prendre du temps pour un service particulier où nous voulons prier pour de jeunes évangélistes, des jeunes témoins, et nous voulons vivre ce temps d'adoration, ce culte, comme un temps de consécration. Et pour ce faire, nous voulons nous saisir une nouvelle fois du message que le Seigneur nous a donné au travers de la parole inspirée qui vient d'être lue, ce que nous appelons communément la grande commission. Cette grande mission, ce grand mandat. Aussi, pour rester en phase avec cette nouvelle mission, le titre de ce message, « Connecte-toi à Christ ». Je vous invite à prier avec moi pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire au cours de ce temps. Notre Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que ton esprit est ici présent, ce lieu d'adoration où nous voulons élever nos cœurs et nos mains vers toi. Nous avons la conviction que tu as appelé des jeunes, des moins jeunes, à te servir. Et tu nous appelles encore ce matin. Et nous voulons, Seigneur, rester à ton écoute. Restez connectés, nous t'en prions de nous permettre de le vivre, de vivre pleinement cette connexion à Christ. C'est en son nom que nous nous présentons devant toi. Amen. Connecte-toi à Christ. Lorsque nous considérons ce mandat qui a été confié aux 11 et puis à nous, nous comprenons que l'évangile a traversé des continents pour arriver jusqu'à nous. Mais nous comprenons également la difficulté que représente la mission aujourd'hui. Aussi, ce qui me réjouit en particulier dans ce texte n'est pas simplement le fait que Jésus va nous dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples », mais surtout parce qu'il commence par dire aux disciples que tout pouvoir, toute autorité lui ont été donnés par Dieu le Père lui-même. En effet, ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant dans ce mandat, c'est de savoir que l'autorité vient de Dieu, que ce pouvoir vient également de Dieu. D'ailleurs, lorsque Matthieu nous interpelle en disant « tout pouvoir », il utilise un mot rempli de sens, qui signifie à la fois le fait que Dieu dispose de tout au travers de Jésus-Christ, mais aussi le fait que Dieu a déjà vu et parcouru l'histoire, et qu'on peut le dire, comme nous l'avons chanté, qu'il tient le monde dans ses mains, il tient l'univers dans ses mains. Toute autorité, tout pouvoir à Jésus-Christ. Et nous comprenons la nécessité pour nous aujourd'hui de rester connectés à Christ pour vivre pleinement cette mission. Tous ceux qui ont eu l'occasion de témoigner, de vivre des expériences fortes, le disent que s'il y a mission, s'il y a propagation de l'Évangile, c'est parce que l'on est resté connecté à Christ. Aussi, nous ne pouvons pas faire l'économie de cette relation très forte avec Dieu, avec le premier évangéliste, à savoir Jésus-Christ. En préparant cette méditation, j'ai pensé aux primaires. Et je me suis dit, mais très souvent, il nous arrive de chercher le leader au travers de différentes méthodes, au travers de différentes orientations politiques, méthodologiques. Mais ce texte nous présente déjà le leader. Ce texte nous présente déjà celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est le seul premier. Celui-là même, nous pouvons l'affirmer, le seul vrai évangéliste, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est le seul. Que disons-nous? Amen. Le seul vrai évangéliste, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors la question, mais pourquoi nous envoie-t-il? Si c'est le seul vrai, pourquoi envoyer plusieurs? C'est justement parce que nous autres, nous voulons vivre cette mission par la foi. Sachant qu'il a toute autorité, sachant qu'il a déjà cette grande ambition de l'évangile qui parcourt toute la terre, nous ne pouvons que suivre ses pas. Toute autorité donnée à Christ dans le ciel et sur la terre. Lorsque nous considérons cela, nous avons lieu de nous poser la question, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile dans un territoire comme le nôtre, métropolitain? Pourquoi est-ce si difficile? Alors, si vous permettez, je ne suis pas un doux rêveur, je suis plutôt un pragmatique. Et je crois que ce n'est pas le territoire qui est difficile, mais c'est nous qui sommes difficiles. Le territoire en lui-même n'est pas difficile, parce que Dieu, comme il le fait dans d'autres contrées, il sait déjà quelles sont les personnes qui sont déjà touchées et qui désirent le connaître. La Bible nous dit, si vous permettez cette interprétation, que si nous nous taisons, les pierres crieront. En d'autres termes, quand bien même vous ne serez pas au top dans la mission, Dieu y travaille. Et il travaille à la perfection. Donc, il a déjà touché un certain nombre de personnes. Il nous suffit simplement, paraphraser, parcourir les champs, voir que la moisson est grande, et qu'il manque simplement des ouvriers. Et il va jusqu'à dire, priez donc le maître pour qu'il y ait des ouvriers. Donc nous comprenons que le problème n'est pas au niveau de celui qui a toute autorité. Le problème n'est pas au niveau de cette bonne nouvelle. Donc le problème n'est pas au niveau du message, mais plutôt au niveau des ouvriers. Et je me réjouis, et je sais que vous aussi, vous réjouissez de voir que des jeunes s'impliquent dans cette mission. Et si nous revenons plusieurs années en arrière, nous comprenons que nos pionniers n'étaient pas plus âgés qu'eux. des jeunes qui avaient entre 16 ans et 20 ans et qui ont impulsé la mission parce qu'ils ont rencontré le Christ. Ils sont restés connectés à Christ et ils ont désiré partager avec leur entourage cet amour de Jésus et aussi ce sauveur à la croix. Mais comment présenter ce Jésus pertinent dans le monde d'aujourd'hui, dans notre territoire, dans notre environnement proche? Le message du Christ est clair. Toute autorité, il nous envoie faire des nations des disciples. Un message qui est à la fois universel, au-dessus des cultures, mais en même temps s'incorporant aux cultures. Un message au-dessus de tout communautarisme. Et parfois, nous comprenons qu'il nous faut oser. Oser dire le message. Oser vivre le message, puisque nous sommes connectés à Christ. Nous comprenons aujourd'hui que ce désir d'être connecté, d'être en relation, est un désir foncièrement humain, d'où le succès des réseaux de communication que nous connaissons aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas le même message. N'empêche, même si nous n'avons pas l'impression que le message évangélique et prophétique de l'Église adventiste n'a pas atteint sa pleine croissance dans notre territoire, nous pouvons affirmer qu'un grand nombre de personnes sont en recherche. Et comment nous le savons? Parce que de plus en plus, il y a des conversions à l'islam, par exemple. Donc, de plus en plus de conversions qui touchent d'autres dénominations. Il y a un retour vers le religieux. La question, c'est, sommes-nous réellement connectés pour emboîter le pas et faire la différence au travers du message que nous avons reçu? Et lorsqu'on dit un message prophétique, certains entendent, par exemple, le message du sanctuaire, le message Daniel 2, Daniel 7, c'est vrai. Mais je reste persuadé que lorsque nous sommes nous-mêmes connectés à Christ, et que nous invitons ceux que nous rencontrons à découvrir le Christ et à être connectés à lui, ils n'auront aucune difficulté à comprendre la dimension prophétique du message adventiste. Parce que lorsqu'ils sont connectés à Christ, eh bien, ils sauront se saisir de la dimension prophétique du Christ. Il nous faut avoir aujourd'hui l'audace de comprendre que ce qu'il y a dans ce livre est invariable. Cela ne changera jamais. Simplement, la méthode va changer. Notre approche va changer. Tout simplement parce que ceux à qui nous nous adressons, eux aussi, ils ont changé. Eux aussi, ils ont d'autres perspectives de vie et d'autres besoins. Nous ne pouvons pas aborder avec eux l'évangile de la même manière que nos parents l'ont fait, avec des outils du siècle dernier. Alors, vous me direz, mais pourquoi ce regain pour le message des pionniers ? Savez-vous que nos pionniers, pour parler d'eux, ont été novateurs? Savez-vous que nos pionniers n'ont jamais eu peur du changement? Savez-vous qu'ils ont utilisé des méthodes que d'autres n'avaient pas encore utilisées? D'où la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, pourquoi avons-nous peur de nouvelles méthodes? Et personnellement, je rêve d'une église qui ressemble à ce que nous avons vécu il y a plusieurs années auparavant. Je veux remonter dans les années 1870. Dans les années 1870, un pasteur n'était pas affecté à une église. Dans les années 1870, un pasteur avait pour mission de défricher un terrain vierge. Et lorsqu'il avait réussi dans cette mission, alors il était reconnu comme pasteur. Et c'est suite à ce travail que ce que nous appelons l'œuvre a connu une forte croissance. Pourquoi ? Parce que ceux qui nous ont précédés sont restés pleinement connectés à Christ, comprenant que l'essentiel, c'est la mission. C'est bien de paître le troupeau, mais l'essentiel reste la mission. Pourquoi ne pas donner priorité, mettre l'emphase sur la mission ? Pourquoi ne pas se dire, voilà, il nous faut maintenant toucher d'autres personnes, oser prendre des risques. L'évangile est arrivé jusqu'à nous, nous nous en réjouissons, nous en voyons chaque jour les effets dans notre vie, les effets bénéfiques. Mais notre plus grand désir, c'est quand même que cet évangile puisse produire également du fruit dans la vie d'autres personnes. Et pour ce faire, il nous faut ouvrir les portes. Pour ce faire, il nous faut aller. Il faut se déplacer. Il faut se bouger. On ne peut plus rester assis tranquillement, se gargarisant de certaines méthodes et de la redite de l'évangile. Il y a une prise de conscience aujourd'hui qui voudrait que, puisque notre Sauveur Jésus-Christ revient, alors il nous faut préparer une moisson. Oui ou non? Il nous faut préparer la moisson. Et certainement avec tout le savoir, mais aussi avec l'intelligence qu'il saura nous donner, le bon sens également. Qui nous a dit que dire l'évangile se limite à mettre en place des conférences? Dire l'évangile pourrait être aussi organiser un bon repas et faire un exposé. Qui nous a dit que l'évangile serait uniquement la distribution de tracts? Cela pourrait être aussi organiser des séminaires sur la santé, montrant que le Christ s'intéresse à la personne humaine. Qui nous a dit que dire l'évangile se limite simplement à une étude biblique? Cela pourrait être aussi ouvrir nos maisons, inviter nos amis. La méthode de Jésus, elle était simple. Il côtoyait les hommes et les femmes. Il prenait du temps pour eux, avec eux. Et lorsque ces personnes avaient suffisamment de confiance en lui, il leur disait, suivez-moi. Et je me réjouis du peu de succès de nos conférences. Et je vous explique pourquoi. Parce que cela va nous impliquer auprès de nos concitoyens. Cela nous implique dans une relation étroite avec eux. C'est facile de se lever, de mettre en place des conférences et de prêcher, et de voir des hommes et des femmes se donner. Mais c'est encore mieux que de s'approcher des hommes et des femmes, d'aller à leur rencontre, d'être sensible à leurs besoins, et de leur montrer comment vivre l'Évangile. Qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre méthode, qu'il n'y avait pas d'autre moyen? Nous avons pris le parti de ne pas prendre parti justement dans la vie politique, mais qui nous a dit que nous n'avons rien à dire. Puisque nous vivons dans la société, nous y travaillons. Il y a certainement un témoignage que nous pouvons donner. Nous ne pouvons plus vivre en autarcie avec l'ambition de se dire « Jésus revient, je me prépare avec les miens et nous attendons le Christ ». Aujourd'hui, vivre la mission, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, vivre la mission, c'est surtout être connecté à Christ. Et lorsque l'on est connecté à Christ, qu'est-ce qu'il nous dit pour aujourd'hui? Comment comprenons-nous ce message à l'effet de toutes les nations des disciples? Alors nous voulons comprendre ce matin qu'au-delà des discours, qu'au-delà des prédications, au-delà même du temps de prière, il y a des hommes et des femmes qui attendent que des ouvriers leur montrent le chemin, que des jeunes et des moins jeunes leur montrent le chemin, leur montrent comment vivre cette bonne nouvelle, leur montrer c'est quoi la bonne nouvelle. Je dirais que rester connecté à Christ, c'est déjà vivre cette bonne nouvelle. Parce que si Jésus-Christ est réellement une bonne nouvelle pour vous et pour moi, ça se verra. Lorsque nous apprenons une bonne nouvelle, cela nous fait du bien, cela nous réchauffe le cœur. Nous sommes exaltés. Une bonne nouvelle pourrait être la guérison d'un ami, d'un frère, d'un membre de notre famille. Une bonne nouvelle pourrait être une promotion. Une bonne nouvelle pourrait être attendre une réponse pour être inscrit dans une grande école. Et apprenant cette bonne nouvelle, on est rempli de joie. On est tout enthousiasmé et enthousiasmant, n'est-ce pas? Il y a tellement de bonnes nouvelles. Mais comment nous vivons la bonne nouvelle? Est-ce que c'est simplement une idéologie? Et nous remarquons que Jésus a fait le choix de nous dire d'aller vers, de rencontrer les hommes et les femmes et de leur dire cette bonne nouvelle. D'en faire des disciples avant même de les baptiser. Sous-entendu, qu'ils ne sont pas baptisés et ensuite ils deviennent des disciples. Mais c'est parce qu'ils sont disciples qu'ils sont baptisés. Amen. C'est parce qu'ils ont rencontré le Christ, qu'ils sont connectés à Christ, qu'ils peuvent être baptisés. Et lorsqu'on est connecté à Christ, il est facile après de se saisir de son enseignement, parce qu'on l'aime, parce qu'on l'adore, parce qu'on sait reconnaître sa voix. Dans mon expérience, ma jeune, ma petite expérience, il y a deux choses, du moins il y a une chose que je regrette. C'est le fait qu'il ait fallu un jour demander à quelqu'un d'enlever ses bijoux pour être baptisé. Et quand je dis ça, je me place à la place de l'apôtre Paul. On va dire à moindre échelle, bien sûr. Pensez-vous vraiment qu'on devrait présenter l'évangile comme cela? Il ne faudrait pas porter des bijoux, il ne faudrait pas sortir, il faudrait pas. Finalement, lorsqu'on se met à la place de nos contemporains, la question, et si je n'étais pas adventiste, je vous l'aurais posée, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire chez vous? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Et tout de suite, cela nous permet de comprendre comment notre manière de dire l'évangile, comment nous sommes perçus. Dès lors que nous sommes perçus comme une église avec plutôt l'idée de ce qu'il ne faudrait pas faire, ce n'est pas du tout un message positif. La vraie motivation, c'est qu'est-ce que nous pouvons vivre en Jésus-Christ? Comment Jésus-Christ nous conduit dans une bonne nouvelle qui nous libère, qui nous épanouit, qui nous donne envie de croquer la vie à pleines dents? C'est ce dont la société a besoin, de voir des hommes et des femmes épanouis dans leur croyance et vivant pleinement ce pourquoi ils se donnent chaque jour. Mais cette manière de présenter l'évangile avec des choses à faire et à ne pas faire, ça n'a rien de positif. C'est mon expérience. J'ai toujours mis l'emphase sur la personne du Christ. Et j'ai jamais eu besoin de dire à ceux que je préparais au baptême ce qu'ils avaient à faire et ce qu'ils n'avaient pas à faire. Parce que dès lors qu'ils étaient connectés à Christ, ça se faisait tout seul. Est-ce que je dois sortir ce soir? Mais le fait même de ma relation avec Christ me dira si c'est un endroit où je peux m'épanouir avec le Christ ou pas. Parfois, nous nous perdons dans des questions qui n'ont pas de sens. Et nous voulons absolument faire des listes avec des endroits où il faut y aller ou des endroits où il ne faut pas y aller. Et comme la mise à jour est un peu lente, nous serons toujours à court. Hein. La liste sera tellement longue et nous allons perdre notre temps. Et surtout, nous n'allons plus vivre la mission comme le Seigneur voudrait. Restez connectés à Christ. C'est aussi accepter que puisque chaque jour, le Christ est incorporé à ma vie, la mission lui appartient et ma vie également lui appartient. Nous avons, il me semble, dans ce texte, la solution à nos problèmes. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas souffrir. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas rencontrer de difficultés. Cela veut dire que les difficultés, telles que la maladie, le deuil, la perte du sens de la vie, tout cela, nous allons le traverser avec une personne. Une personne qui sait faire la différence, le Christ. Une personne qui ne sera pas loin de nos problèmes, mais qui sera avec nous tous les jours. Aussi, nos contemporains, nous voyant vivre notre vie de cette façon-là, voudront connaître notre secret, parce que nous serons alors touchés par les mêmes difficultés, en prise aux mêmes questions, seulement la réaction sera tout autre. Tout autre parce que nous sommes connectés à Christ. Connecte-toi à Christ. Je me réjouis également de voir qu'au sein de cette église, vous vous êtes donné comme mission de soutenir des jeunes dans une action missionnaire. Vous êtes donné également pour mission d'étendre le royaume de Dieu en permettant à Dieu d'ouvrir d'autres lieux de culte. C'est ça la vraie mission. C'est ça le rôle de l'Église. Et nous ne pouvons que prier pour que cela continue, mais également nous réjouir de voir qu'au travers de votre engagement, des jeunes et des moins jeunes désirent non seulement rester connectés à Christ, mais désirent également encourager d'autres à se connecter à Christ. Ce matin, nous voulons prier avec eux. Et pour ce faire, je vais demander à toute l'équipe de se placer ici et également à Olivier, à Camille de me rejoindre, de telle sorte que nous puissions prier avec ces jeunes évangélistes qui comptent sur vous, qui ont besoin de vous. Et nous allons demander à l'Assemblée après de se lever pour ce temps de prière. Mais avant de les présenter d'une manière spéciale à Dieu, ils vont se présenter. Vous connaissez déjà certains d'entre eux. Ils vont vous parler un petit peu de ce qu'ils ont déjà vécu, de ce qu'ils veulent vivre également. Et je leur laisse ce temps de parole.
Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, Charlie ne vous a pas trop endormi. Je vois que vous êtes réactif. Merci Charlie pour ton message. C'était vraiment très bien. Un beau développement de Matthieu 28. Avant de nous présenter, j'ai un petit temps. Je voudrais que vous preniez vos Bibles au psaume 105, s'il vous plaît. Le psaume 105 au verset 1, qui dit « Louez l'Éternel, invoquez son nom et faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Voilà, on restera sur ce premier verset. Et dans mon expérience Connecte-toi, un jour j'ai un ami qui vient me voir, un ami de l'église, qui me dit « Gaëtan, j'ai vraiment envie de m'investir pour Dieu, j'ai vraiment envie d'avoir une vie spirituelle active, être connecté à Christ. » Je me suis fixé tous les matins de me réveiller plus tôt, de lire la Bible, de prier Dieu, de le louer, de chanter des cantiques. Mais il me dit à chaque fois, au bout de quelques jours, je perds la motivation. Et quand il m'a dit ça, ça m'a directement touché. Et je sais que pour chacun de vous, ça vous l'a déjà fait. On a envie de vivre une expérience avec Christ, on a la motivation de prier, mais au bout de quelques jours, ça se dissipe. Et on oublie souvent, finalement, la troisième partie. Et quand cette personne m'a dit ça, quand mon ami m'a dit ça, j'ai compris, Dieu m'a inspiré ce texte, et il me dit, prie-moi, loue-moi, lis la Bible, étudie la Bible, fais toutes ces choses. Mais il nous dit aussi, parle de ce que je fais dans ta vie. Parle des hauts faits que j'ai réalisés tout au long de ta vie, et témoigne. Et c'est une partie souvent, en tant que chrétien, qu'on oublie, celle de témoigner, cette partie qui est la plus grande partie, finalement, la mission, la commission que Dieu nous a donnée, celle de partager et de proclamer l'évangile au monde, de proclamer la bonne nouvelle. Et si on doit être des disciples, si on doit être des missionnaires, c'est pas parce que Dieu veut nous embêter à nous demander de faire des choses compliquées, mais c'est parce que nous avons besoin, en tant que chrétiens, en tant que disciples, de le faire. Nous avons besoin de nous mettre en condition de témoigner pour avoir une vie de chrétien remplie. Et c'est pour ça que Connecte-toi a été mis en place finalement. C'est pour donner les moyens à l'Église, aux laïcs, de se mettre en position de disciple et de missionnaire. Souvent on va dire, oui, mais c'est au pasteur, c'est à l'équipe Connecte-toi, mais c'est à l'Église. C'est l'Église qui fait la mission. Et l'Église, c'est vous, c'est chacun de vous. c'est chacun de nous. Nous devons proclamer l'Évangile, chacun de nous. Et Connecte-toi a été mis en place justement pour donner les outils aux membres d'Église, et en particulier aux jeunes, qui est le futur de l'Église, des outils pour évangéliser, pour proclamer notre foi. Et ça fait 2 ans maintenant que Connecte-toi a commencé en France, ça fait des années maintenant que ça a commencé en Europe, en Espagne. Et j'étais un des premiers à commencer à Marseille, j'étais le responsable, on va dire, du groupe à Marseille. Et j'y suis allé, c'est vrai, bon, Dieu m'a appelé, j'aurai l'occasion de vous raconter peut-être un peu plus particulièrement au fil des semaines ma conversion et mon appel à faire Connecte-toi. Mais il m'a appelé et je ne savais pas vraiment pourquoi j'allais faire le projet. Je n'avais pas vraiment envie non plus d'y aller. Mais j'y suis allé. Et Dieu m'a appris énormément de choses ces 2 dernières années. On a fait énormément de choses, nous avons rencontré énormément de personnes, nous avons fait des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Et finalement, je comprends aujourd'hui que Dieu nous appelle réellement et qu'il est là avec tout le pouvoir qui lui a été donné. Et il est là avec nous jusqu'à la fin des temps. Et je vois que Dieu agit, continue à inspirer les gens. Et cette année, grâce à vous aussi, grâce à Dieu, sur Auxerre, il y a un nouveau projet qui se met en place. Et 3 nouveaux jeunes se sont engagés pour la mission, parce qu'ils ont senti l'appel de Dieu. Ils sont là, j'en fais partie aussi, même si je suis un pied à Marseille, un pied à Auxerre. Et pour ceux qui ont eu la chance, il y a 3 semaines d'être là, je me suis un peu présenté, mais je vais laisser la parole à ces 3 jeunes, à Gildas, Mélanie et Cédric, voilà, pour que vous sachiez, puisqu'ils vont être là pendant 9 mois, ils viendront régulièrement chaque mois, que vous puissiez savoir qui ils sont. Voilà.
Bonjour, alors moi c'est Gildas Zénard, je viens de l'église d'Orléans à la base, mais ces 2 dernières années j'étais dans le sud de la France, du côté de Pau. Moi si je suis aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai décidé de m'engager dans Connecte-toi. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre une aventure avec Dieu, et je pense que cette aventure pourra me permettre de grandir, aussi spirituellement que socialement, enfin sur tous les plans, et... J'espère pouvoir répondre aussi à l'appel que Dieu nous a envoyé.
Bonjour, je m'appelle Mélanie Padre, j'ai 22 ans, je viens de l'île de La Réunion. Et si je me suis engagée à Connecte-toi, c'est parce que j'ai senti l'appel de Dieu. En fait, j'ai besoin de sentir que l'Église est vivante, qu'elle bouge, qu'elle a de l'avenir, et c'est pour ça que je suis là. Et j'espère... grâce à cette expérience que je pourrais apprendre plus sur Dieu et grandir dans ma vie spirituelle.
Bonjour, alors moi c'est Cédric, j'ai 22 ans, je viens de Haute-Savoie à l'église d'Annemasse. Et si j'ai décidé de faire Connecte-toi en fait, c'est pour témoigner de la chance en fait que j'ai de connaître Jésus. Et pour essayer d'en faire part aux gens qui n'ont pas conscience en fait de ce qui manque. Et je pense que ce sera une expérience aussi personnelle et très enrichissante. Voilà.
Donc, ce qui a été prévu, c'est un repas avec les jeunes, donc compagnons aînés, je crois, hein, et une rencontre après, pendant le repas, je crois, non ? Pendant ou après le repas, pour ceux qui ont des questions. Donc, vous savez, bon, les jeunes et les moins jeunes, hein. On dit chez nous que la jeunesse, ça va de 0 à 99. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez nous rencontrer, nous poser des questions, vous êtes les bienvenus. Mais plus particulièrement pour les compagnons aînés, vous êtes invités à venir manger avec nous et vous êtes aussi invités à venir nous aider quand vous avez le temps, pendant les vacances scolaires, pendant un week-end, pendant 2 jours. Si vous voulez venir vivre une expérience réelle, vous êtes invités, vous êtes les bienvenus. Donc, on espère vous voir tout à l'heure. Merci.
Alors, comme je l'ai annoncé, nous allons maintenant prendre un temps de prière avec eux. Donc, à ce temps de prière sera associé Camille, Olivier. Oui, Seigneur, ils sont là. Tu les as appelés et ils ont répondu. Seigneur, nous voulons aussi reconnaître leur engagement, reconnaître que c'est toi qui les as appelés. En tant que communauté, mais aussi puisque nous avons tous répondu à cet appel à la mission, nous prenons, Seigneur, acte qu'aujourd'hui tu as besoin d'ouvriers, des jeunes et des moins jeunes. Pour ce projet, notre Seigneur, tu as choisi des jeunes. Ils ont toute ta confiance. Et nous aussi, Seigneur, ils ont notre confiance. Pourquoi ? Parce que nous savons que tu as toute autorité et que c'est toi qui les envoies. Merci, Seigneur, parce que lorsque tu appelles, tu qualifies également. Tu les as qualifiés pour ce service. Et ils pourront, avec ce que tu as mis dans leur cœur, mais aussi avec toutes les qualités dont ils disposent, ils pourront témoigner et vivre et dire cet évangile dans un contexte sécularisé. Seigneur, nous voulons nous associer à cet appel en leur imposant les mains. Nous levons les mains, Seigneur, car nous reconnaissons que c'est toi qui les consacres, puisque tu les as appelés. Donne-leur la conviction, Père, que c'est toi, et toi seul, qui as mis dans leur cœur ce feu de partager ton évangile, de le vivre, mais aussi d'attirer à toi des jeunes et des moins jeunes. Père, donne-leur de la réussite dans cette mission. Et nous savons que grâce à toi, Seigneur, ils pourront être les outils choisis pour que dans cette ville d'Auxerre, plusieurs puissent entrer en contact et rester et être connectés à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Amen. Amen.